صلوا على محمد وآل محمد. Mes chers sœurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme certaines d'entre vous qui ont l'habitude de venir régulièrement à la mosquée ont dû reconnaître le verset que j'ai récité devant vous, c'est un verset qu'on récite souvent dans nos communautés, souvent à la fin des médianis. Alors, en fait, c'est la première partie du verset numéro 62 de la sourate An-Naml, les fourmis, d'accord ? Sourate numéro 27, verset 62 de cette sourate. Et nous verrons que ce verset continue, mais nous ne prenons qu'une portion. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal ? Alors souvent dans nos communautés, à la fin des madianis ou au début des madianis, nous récitons ensemble ce verset-là. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que dans la communauté, dans la société, dans toute l'assemblée, dans toutes les personnes qui sont là, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient des problèmes quelconques. Et donc nous demandons ensemble un doigt pour justement faire en sorte que tous les problèmes de toutes ces personnes-là soient justement supprimés. Alors, ce qui est étrange, c'est que même si ce ayat, ce verset est répété et récité très souvent, il y a très peu d'analyses qui ont été faites de ce verset-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser ce verset. Alors, tout d'abord, ce qu'il est important de savoir, c'est que tous les individus, qu'ils soient monothéistes, qu'ils soient polythéistes, et même qu'ils soient athées, tous les individus ont l'invocation dans leur cœur. C'est une nature innée, d'accord, chez les individus d'invoquer, de demander quelque chose, d'accord, que ce soit à la Subhanahu wa Ta'ala ou que ce soit à une divinité quelconque, mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent, d'accord. Alors, on a tous vu des personnes invoquer Dieu, d'accord, faire des invocations, faire des doigts, que ce soit à un match de football, que ce soit à une cérémonie de mariage, par exemple, que ce soit à un enterrement, que ce soit même au lit d'un mourant ou d'une personne qui est très malade, etc. Donc, en tout temps, en tout lieu, nous voyons des gens en train de prier, en train d'invoquer une créature, un créateur, Dieu ou une autre divinité. Et puis, dans toutes les religions, nous conseillent de justement faire des invocations. Pour celles qui savent un peu comment ça se passe dans les églises, il y a plusieurs invocations qui sont récitées également. Nous avions parlé de l'euthanasie à un des médialistes. Et vous vous souvenez que le judaïsme nous disait que même si une personne est dans un état végétatif et comme un légume, c'est-à-dire que cette personne n'a plus aucune vie, on n'a plus vraiment d'espoir que cette personne vivra, qu'elle respirera, qu'elle reviendra à ses fonctions normales, même si cette personne est comme un légume, le judaïsme nous disait que quand on demande à un rabbin juif qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut débrancher les machines parce que cette personne, eh bien, elle n'est qu'un légume maintenant. Alors les juifs nous répondaient, non, ce n'est pas possible. Parce que quand on arrive à ce stade-là, il y a encore un espoir que si on va invoquer Dieu, si on va demander à Dieu, peut-être que Dieu va répondre à notre invocation. Et donc si on débranche la machine, c'est comme si on coupait ce lien, cette possibilité que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de nous entretenir avec lui. Donc, nous avions vu que dans plusieurs religions, il y avait cette importance qui était donnée à l'invocation. Notamment dans le bouddhisme, où on vous dit qu'il est important que l'on comprenne les invocations qu'on récite, d'accord, pour que nos vœux soient exaucés. Alors, dans le modialisme d'aujourd'hui, voilà les questions, voilà les réponses que nous allons apporter. La première chose à laquelle nous allons nous intéresser, c'est quelle est la signification de ce verset, Amma yujibul mustadra. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a une série de versets qui commencent par Amma? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'il y a une série de versets qui commencent par ce mot-là? Puis, nous verrons, est-ce que les Arabes de l'époque, quand Rasulallah est arrivé, est-ce que les Arabes avaient l'habitude de l'invocation? Est-ce que l'invocation était quelque chose qui était présente chez les Arabes? Pourquoi? Comment est-ce qu'ils invoquaient? Qui? Etc. Et pourquoi donc ce verset a été révélé. Puis, nous verrons pourquoi, et c'est une question que nous nous posons souvent, je prie Allah subhanahu wa ta'ala, je suis désespérée, j'ai des problèmes, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute pas ce que mes voeux, n'écoute pas mes invocations. Donc nous verrons quelles sont les raisons et donc quelles sont les conditions de la demande de vœux, la demande de doua. Et puis nous verrons quelles sont dans l'école d'Ahlul Bayt un certain nombre de doigts, un certain nombre d'invocations pour les désespérés. Et puis, en dernier, nous conclurons en parlant du fait que qui est le désespéré dans ce monde. Alors, tout d'abord, nous voulons parler de ces versets. Donc là, j'ai essayé de vous faire une capture d'écran de la sourate 27 dont nous parlons. Donc nous sommes ici. Nous sommes dans le verset 62, mais nous voyons que dès les versets 60, donc verset 60 jusqu'à verset 64, ça commence à chaque fois par « Amma ». D'accord ? Et ça commence toujours par « N'est-ce pas lui ? N'est-ce pas lui ? N'est-ce pas lui ?» etc. Donc, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer ? Il veut en fait montrer, il veut faire en fait comprendre, il veut que les idolâtres comprennent, il veut en fait éveiller leur conscience, leur dire, il leur parle de la création, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, est-ce que c'est pas lui qui fait descendre du ciel une eau, etc., donc la pluie, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé, n'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres, etc. Donc, là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala veut que ces gens-là, ces idolâtres, ils comprennent justement. Ils ouvrent les yeux, ils comprennent justement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé et qui donc est le seul qui pourra nous répondre. Alors, les Arabes, ils avaient tous l'habitude des invocations, d'accord ? Ils avaient l'habitude d'aller auprès des idoles et ils avaient l'habitude de joindre les mains comme ça, un peu comme les hindous font encore aujourd'hui, et ils demandaient leurs vœux aux idoles. Donc c'était un peuple qui pratiquait beaucoup l'invocation, qui faisait beaucoup de doigts. Et puis comme ils avaient envie de savoir si leurs vœux étaient exaucés ou pas, ils avaient envie de communiquer avec leur Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un bol et ils prenaient trois morceaux de papier, trois bouts de papier. Un peu comme ce qu'on fait avec l'istikhara un petit peu. Donc sur un papier, ils mettaient, faites-le, sur un autre papier, ne le faites pas. Et sur un autre papier, c'est moyen, c'est ni bon ni mauvais. Et puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, ils communiquaient, ils parlaient avec leur divinité, ils disaient, est-ce que c'est bien pour moi de faire telle chose? Et puis ils prenaient un des papiers au hasard dans le bol. Et puis, d'après le papier qu'ils avaient pris, pour eux, c'était la réponse que leur Dieu leur avait donnée. Donc, s'ils prenaient le papier, ne le faites pas, et bien ils évitaient de faire cette action-là, ils ne faisaient pas. S'ils tombaient sur le papier, faites-le, alors ça voulait dire que leur Dieu leur a répondu qu'ils pouvaient faire cette chose-là. Et donc, ils remerciaient leur divinité de leur avoir donné la réponse de leurs questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse. Et puis, vous vous souvenez, on en avait parlé une fois dans un hadith. Vous vous souvenez que pour remercier leur Dieu, ils apportaient des donations, ils apportaient des offrandes pour ces dieux-là. Et ils avaient notamment l'habitude d'amener souvent un bol de lait. Et je vous avais raconté cette anecdote où Abu Dharr al-Ghifari raconte que quand il était encore polythéiste, quand il était encore un enfant, alors, donc, ils avaient l'habitude, sa famille, ses amis, etc., avaient l'habitude d'aller déposer un bol de lait devant les idoles, devant l'idole qu'ils avaient l'habitude d'invoquer, qu'ils avaient l'habitude d'adorer. Et puis, il dit un jour, nous sommes allés déposer un bol de lait à l'idole, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vu qu'à peine est-ce qu'on a déposé le bol de lait devant l'idole dans la forêt, que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un renard aujourd'hui qui a sauté, qui a bu le lait, et puis après avoir bu le lait, l'idole a pissé sur le renard a pissé sur l'idole. Et du coup, on s'est demandé, est-ce que finalement, vous avez fallu se demander, finalement, cette idole qui ne peut même pas se sauver, ne peut rien faire, se laisse carrément pissé dessus, quoi, en gros. Comment est-ce que cet idole-là, il pourra me sauver, il pourra m'aider, etc. Et Abouzar el-Ghifari a dit que depuis ce moment, alors que j'étais encore enfant, j'ai compris que finalement, ces idoles qu'on adorait, ben, finalement, ils n'avaient aucun pouvoir, aucune puissance, et que ça ne valait vraiment pas le coup que l'on fasse appel à ces idoles-là, on espère que ces idoles vont nous aider. Vous vous souvenez de Bilal el-Habashi, qui était le muezzin du prophète? Eh bien, vous savez qu'à l'époque du Jahiliyyah, de l'ignorance, Bilal el-Habashi, il était le gérant du temple où étaient stockées les idoles, où on mettait les idoles, justement. C'est lui qui avait les clés du temple, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il voyait justement ces gens qui venaient, qui priaient ces idoles qui étaient faites de bois, de pierre, etc. Et en regardant ces coutumes, il se demandait, mais comment est-ce que c'est possible? Ces idoles ne peuvent même pas se débrouiller tout seuls, ils ne peuvent même pas se défendre. Si on venait avec une hache et on les détruisait, ils ne pourraient rien faire. Et pourquoi est-ce que on espère que ces mêmes idoles-là vont nous aider? Donc, ça commençait déjà à travailler dans la tête, dans l'esprit de ces personnes. Alors, justement, les Arabes de l'époque, ils avaient l'habitude d'adorer donc les idoles faites de pierre, de bois, etc. Et c'est suite à ces pratiques des Arabes que le verset a été révélé. D'accord? Est-ce que ce n'est pas lui, hein? Est-ce que ce n'est pas lui qui a créé les cieux et la terre, etc.? Et est-ce que ce n'est pas lui qui est le meilleur pour répondre à l'invocation de celui qui est désespéré? Pour répondre à ces Arabes qui avaient l'habitude justement de déposer, de demander des invocations à ces idoles qui pourtant ne leur répondaient pas. Pourquoi? Parce que si je demande à quelqu'un, si je vous fais une demande, si j'ai un problème et que je viens vers vous, vous allez me répondre, vous allez répondre à mon appel, si vous êtes de bonne humeur, si vous avez la possibilité, si, il y a plein de si, vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes de mauvaise humeur ou si vous êtes fâché contre moi, je pourrais vous dire, j'ai ce problème-là, est-ce que vous pouvez résoudre? Vous allez m'envoyer balader, vous êtes d'accord avec moi? Vous n'allez pas me répondre. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous répond à chaque instant, à chaque moment, à chaque temps. Et c'est justement pour montrer à ces idoles que ce n'est pas la peine d'aller demander aux autres. Parce que le seul qui donne le risque à la subsistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce qu'il distribue la richesse? Si nous, c'était à nous, si on avait cette mission de distribuer la subsistance aux gens, je ne sais pas comment ça serait passé. Je ne sais pas comment on aurait fait. Comment est-ce qu'il distribue la richesse, Allah subhanahu wa ta'ala? Des fois, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que ces gens-là, Bill Gates, Warren Buffett, pourquoi ces gens-là, ils sont multimilliardaires? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné tellement, alors qu'ils ne sont pas forcément religieux ni pieux? Mais est-ce que vous avez regardé une des qualités que ces personnes-là ont? Une des qualités qu'ils ont, c'est qu'ils sont très généreux. Ils donnent, ils sont généreux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement cette attitude qu'il leur a fait millionnaire, il leur a donné. Parce que ces gens-là, ils font la charité. Ces gens-là, ils donnent aux gens, ils partagent ce qu'ils ont. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir notre sixième imam, Imam Jafar al-Sadiq al-Islam. Et lui a dit, pourquoi est-ce que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, Imam lui explique, il dit, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de notre nature innée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il dit, oui, même les personnes qui ne croient pas en Dieu, même les athées, même ceux qui crient haut et fort, nous ne croyons pas en Dieu, Dieu n'existe pas, etc., nous ne sommes pas d'accord avec vous. Imaginez que vous êtes dans un bateau qui va faire naufrage. Imaginez que vous êtes dans un bateau qui est en train de se faire emporter par le vent, par la tempête, etc. Quelle va être votre réaction? Notre sixième imam demande à ce compagnon-là, à cette personne-là. Il dit, imagine que tu es dans un bateau comme ça et que tu connais que maintenant, dans quelques secondes, tu vas mourir, il n'y a plus d'espoir pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais demander, oh Dieu, aide-moi! C'est ce que je vais crier du plus profond de moi-même. Il dit, voilà. Même l'athée qui crie haut et fort qu'il n'y a pas de Dieu, S'il est dans un accident de voiture, qui est en train d'écraser sa voiture, la chose qui va sortir de son cœur, de sa bouche, mais parce que ça vient de son cœur, c'est quelque chose qui est inné dans son cœur, il va dire « Oh Dieu, aide-moi !» Alors que lui-même, il dit que Dieu n'existe pas. C'est quelque chose qui est inné chez nous. Alors, nous venons maintenant à notre prochaine partie qui est que je suis malheureux, j'ai des problèmes, je demande, je me lève au plein milieu de la nuit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, j'essaye de faire un maximum, etc. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'y est ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que mes voeux ne sont pas exaucés ? Il y a, mes chers sœurs, certaines conditions pour les doigts. Nos imams, alayhi salam, nos imams nous ont montré qu'il y a des conditions pour demander les doigts, pour demander des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. La première condition, la première chose à faire, c'est de réciter le salawat. Avant même de demander nos doigts, de demander nos hajjat, de commencer par réciter le salawat. Rasulallah a expliqué que quand vous commencez à parler à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un rideau, il y a un voile entre Allah subhanahu wa ta'ala et vous. Et lorsque vous récitez le salawat, ce voile-là, il est supprimé, il s'en va. Et vous êtes maintenant, il n'y a plus rien qui vous sépare de votre Créateur. Maintenant, vous êtes libre de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque je récite le salawat, j'explique, je montre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit que s'il n'y avait pas Mohammed, je n'aurais pas créé cette terre, je n'aurais pas créé tout ce que j'ai créé. Donc nous acceptons, nous sommes d'accord sur le fait que sans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants, nous n'aurions pas tout ce que nous avons. Salut ala Mohammed wa ali Mohammed. La deuxième condition de demande des doigts, c'est que tout d'abord nous prions pour les autres et c'est ensuite que nous prions pour nous. Lorsque nous regardons les invocations que nous avons dans le Saïf al-Sajadia, dans le Wai Komel, dans le Fatim Jinan, nous avons plein d'invocations. Quand nous lisons ces invocations-là, nous voyons toujours qu'il y a des « nous ». « Donne-nous, fais ceci pour nous », etc. À chaque fois, ce sont des « nous ». Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tendance à dire « je ». « Oh Allah, donne-moi ça ». Nous, nous avons remplacé les « nous » par « moi » et « je ». Non. D'abord, il faut penser aux autres. D'abord, il faut prier pour les autres. Et c'est ensuite que nous demandons pour nous. Ça, c'est une des conditions de l'acceptation du doigt. Au lieu de dire « Oh Allah, accorde-moi telle chose », disons « Accorde au mu'min, au mu'mina, accorde aux musulmans telle chose. Résous les problèmes des musulmans. Et ensuite, par cet intermédiaire, résous aussi mes problèmes. » Combien vous allez voir que, parce que l'islam est une religion d'unité, de fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je mets comme condition, d'abord pense aux autres makhloukat, pense d'abord aux autres créatures, et ensuite pense à toi-même. Et c'est comme ça que je vais te répondre, je vais répondre à tes invocations. Je ne vais pas te laisser seul, je ne vais pas te laisser dans ton état de désespoir. La troisième condition, c'est justement dans ce verset-là, on parle de mendiant, de moustar. Moustar, c'est un mendiant. Imaginez que vous n'avez rien à manger. Imaginez une seule seconde que ça fait quelques jours que vous n'avez pas mangé, que vos enfants sont affamés. Est-ce que vous demandez des doigts comme ça? Qu'est-ce que vous ferez? Vous supplierez, vous êtes d'accord avec moi? Imaginez qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre, quelqu'un qui a de la nourriture, qui peut me donner. Comment je vais être face à cette personne? C'est vrai ou pas? Imaginez qu'il y a, que j'ai besoin d'argent et qu'il y a justement une organisation, un organisme qui peut me donner de l'argent. Comment est-ce que je vais me présenter face à la personne qui va me recevoir? Je vais supplier cette personne, je vais lui montrer au maximum que je mérite, n'est-ce pas? Imaginez qu'il y a une bourse et qu'il y a très peu qui doivent avoir cette bourse-là. Je vais montrer, faire tous mes efforts pour montrer à la personne que je mérite cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ce que dans ce verset on nous dit. Je suis comme un mendiant. Est-ce que nous, quand nous demandons à la souveraineté, nous ressemblons vraiment à des mendiants? Est-ce que nous ressemblons vraiment à des mendiants? C'est la question que nous pourrions nous poser. D'ailleurs, dans le doigt et Imam Ali al-Salam dit, « Oh Allah, c'est vers toi que j'ai dirigé ma face, que j'ai dirigé mon visage. Et c'est vers toi que j'étends mes mains. » Le mendiant, qu'est-ce qu'il fait? Il étend ses mains, vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cela qu'on dit que c'est sunnah, c'est très important que quand nous demandons nos doigts, c'est comme ça que nous devrions demander nos doigts. Nous étendons nos mains. C'est comme si je disais à Allah, « Allah, s'il te plaît, donne-moi. » Comme un mendiant exactement. Et ensuite, une des raisons, pour les, une des conditions aussi, c'est que nous faisions tout notre possible d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons recevoir, mais nous ne voulons rien donner, comme nous avait dit Maulana l'autre jour. Il ne parlait pas de notre relation avec Allah, mais il parlait des relations mari et femme. Il disait aux hommes, hein, alhamdulillah, pas à nous. Il disait aux hommes que vous êtes toujours en train de réclamer tout des femmes. Vous voulez qu'à la maison tout soit cuisiné pour vous, que vos affaires soient prêtes, vos vêtements sont repassés, que tout soit haram, tout est tranquille pour vous. Mais vos femmes ne sont pas vos bonnes, c'est ce qu'il disait, hein. Moi je répète ce qu'il a dit, hein. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu, hein. Donc, on est content quand on entend des choses comme ça, hein. C'est rare que les hommes ils disent quels sont les devoirs des femmes. Mais je suis contente parce que on a beaucoup de maulana et des fois ils ne disent pas les quatre vérités. Et je pense que nos hommes de temps en temps ils ont besoin des quatre vérités. Salut Allah Mohammed wa Ali Mohammed.